21h sur Radio Yannick Petit au micro pour vous accueillir. Vous accueillir pour une émission toute particulière ce soir. En effet, Lydie Salvert a reçu le prix Goncourt le 5 novembre dernier pour son roman intitulé « Pas pleurer » aux éditions du Seuil. La lauréate du Goncourt 2014 était l'invitée de la librairie L'Autre Monde à Avallon le 14 novembre dernier. La discussion a eu lieu en public, elle était menée par Evelyne Levallois, libraire, et par moi-même, devant une assistance de 150 personnes dans la salle des Maréchaux, en mairie d'Avallon, redécorée, d'ailleurs pour l'occasion, aux couleurs du drapeau de la République espagnole, par l'association Mémoire, Histoire des Républicains Espagnols de Lyon. Wagon Livre vous propose ce soir, dans sa quasi-intégralité, les échanges enregistrés au cours de cette soirée littéraire. Lydie Salvert est née en 1948, elle est la fille d'exilés espagnols qui ont fui le franquisme et tenté de faire le deuil du pays natal. Son dernier roman, « Pas pleurer », revient sur la jeunesse de sa mère lors de la guerre civile espagnole de l'été 36 et met en lumière la position de l'écrivain français catholique Georges Bernanos, auteur d'un pamphlet « Les grands cimetières sous la lune » qui dénonce la terreur exercée par les nationaux avec la bénédiction de l'Église catholique contre les mauvais pauvres. La discussion s'est ouverte en invitant Lydie Salvert à expliquer l'origine du titre de son roman « Pas pleurer ».
Il y a deux ans ou trois, je travaillais à un essai sur des femmes écrivains, parmi lesquelles Marina Tsvetaeva, que vous connaissez peut-être, qui est une poétesse russe et qui a vécu l'exil de façon très douloureuse. Elle était donc née à Moscou et elle a ensuite émigré en Allemagne, en Tchécoslovaquie, puis à Paris, qu'elle a vécu vraiment de façon extrêmement triste. Et dans une lettre à Pasternak, elle commence à se plaindre de son statut d'exilée. Elle dit que la Russie lui manque, que la langue lui manque, que son poil russe lui manque, etc. Puis tout d'un coup, elle s'arrête et elle dit « pas pleurer ». Et j'ai trouvé ça magnifique. Je trouvais que c'était l'esprit de ma mère qui elle aussi a vécu l'exil, mais en disant on serre les dents, on avance, on ne gémit pas sur son sort. J'ai trouvé que c'était une belle position littéraire aussi, parce que je déteste le dolorisme, le sentimentalisme larmoyant en littérature, et une belle position existentielle. Et donc j'ai décidé de le prendre comme bannière, un peu comme titre en tout cas, pour ce récit sans larmes de ma mère.
Alors moi, j'avais une question sur l'écriture de Lydie Salvert. Le roman, c'est l'histoire d'une jeune femme, elle a 15 ans, elle découvre le grand amour, en même temps qu'elle découvre les horreurs de la guerre. On est en 36, voilà, au tout début de la guerre d'Espagne. Et la deuxième voix, donc la première voix c'est la maman, la deuxième voix c'est Bernanos. Pourquoi ce recours aux voix dans votre art poétique? On avait déjà ce phénomène hein, dans la puissance des mouches, dans la compagnie des spectres.
Écoutez, en tout cas, je réponds de façon générale sur les livres que j'ai écrits, ça m'est difficile, mais pour celui-ci, c'est vraiment la lecture des grands cimetières sous la lune de Bernanos. C'est vraiment cette lecture qui me pousse dans le dos pour écrire ce récit. C'est vraiment Bernanos et son récit terrible sur les exactions dont il est témoin en 36, j'en reparlerai, qui me donne l'impulsion nécessaire, le désir d'aller vers cette histoire familiale. Voilà pourquoi il est si présent tout le long, outre le fait que je l'admire et qu'il est un grand écrivain.
Une des caractéristiques principales de cette œuvre, c'est l'écriture que tout le monde a appelée le fragnol. Je ne sais pas d'où ce mot vient d'ailleurs. C'est vous qui l'avez inventé? C'est la presse?
Non, c'est plutôt moi.
C'est plutôt vous?
Ah, il faut parler. Oh, pardon.
Donc c'est plutôt vous. Ce fragnol, c'est une invention? C'est juste une copie de ce qui existait?
Mais s'il y a des exilés espagnols dans la salle, et je sais qu'il y en a, et ça me fait infiniment plaisir, Tous vous diront, sans doute, qu'en arrivant en France, ils se sont inventés, ils ont créé une langue, en tout cas pour ceux qui ne connaissaient pas le français, et je crois que c'était le sort de la plupart, une langue avec des mots de français très incorrects, avec des mots d'espagnol plus ou moins francisés, avec des barbarismes, avec des solécismes, avec des expressions toutes faites, défaites, etc. Et que cette langue si malhabile, si incorrecte, dont j'avais honte lorsque j'étais enfant, parce qu'elle était la marque de l'étrangère, de celle qui ne sait pas intégrer les codes culturels, les codes de langage, etc., dont on se moquait d'ailleurs avec mes sœurs, je me souviens, bêtement. Plus j'ai vieilli, plus j'ai trouvé que cette langue, loin d'altérer le français, loin de l'abîmer, loin de l'estropier, comme je le croyais, elle le rendait plus inventif, plus poétique, plus drôle aussi, parce que l'espagnol et le français sont voisins, et avec souvent des étymologies communes. Je vais juste donner deux exemples. Ma mère, en vieillissant, est devenue croyante. Tout arrive. Et croire en espagnol se dit creer, creer. Le mot qui lui semblait le plus proche de creer en français, ça n'était pas croyant, parce que croyant, c'est très éloigné de creer, c'était crédule. Et elle disait, je suis devenue extrêmement crédule. S'il te plaît. Voilà. Et vous voyez, avec la même étymologie, on voit combien cet usage incorrect ajoute du côté de la candeur, du côté de la drôlerie aussi. Et je pourrais citer comme ça un nombre d'exemples infinis, et un autre que j'aime bien citer. Ma mère, bien qu'elle ait été libertaire dans sa jeunesse et qu'elle ait gardé quelque chose de cet esprit libertaire, en même temps voulait que ses filles soient correctes, polies, ça m'est resté d'ailleurs, trop, me dit Marie.
On en reparlera, je disais.
Bien habillées, etc. Et elle voulait qu'on soit mariés. C'était important qu'on soit mariés. Mariée en espagnol se dit casar, c'est casada. Et elle me disait avec un grand lyrisme, ma chérie, j'aimerais tellement, tellement, ça serait tellement beau que tu sois casée, ce qui est casée quand même, c'est la pire des choses qu'on puisse imaginer comme idéal de mariage. Voilà, ces deux exemples qui ne sont pas dans le livre, mais qui disent bien combien ces imperfections de la langue, ces balbutiements, ces boiteries, ces collusions amènent d'inventivité et de fraîcheur.
Est-ce qu'à l'occasion, vous accepteriez, même tout à l'heure, hein, de nous en lire un petit peu ?
Je veux bien, mais c'est très bizarre, parce que quand je le lis, silencieusement, ça me va. Quand je le lis à voix haute, comme ce n'est pas la voix de ma mère, ça produit un effet d'étrangeté.
J'ai essayé, mais comme je ne suis pas très, très...
Qui n'est pas forcément agréable.
Bonne en espagnol, ça ne marche pas.
Mais il y a, par exemple, elle dit qu'elle est stomaquée, elle parle des dégoutations. Et alors, il y en a une formule que j'ai trouvée absolument superbe, quasi poétique, une fourmilière de détails. Ça, c'est très joli, une fourmilière de détails.
Ou bien elle dit, sans l'ombrage d'un doute. Ou bien, la guerre est tombée à pic nommé. Voilà, des choses comme ça qu'elle faisait, mais à son corps défendant, bien sûr. Hein, c'était tout sauf volontaire, et en même temps, ça me ravissait comme une espèce de génie inventif de la langue, parce que je me dis que la condition de vie de la langue, c'est son inventivité. Les écrivains devraient le savoir, mais tout le monde. Et ça me paraît très, très important qu'une langue reste vive. Non pas qu'elle reproduise la langue des maîtres, je pense à l'anglais, hein, qui est vraiment la langue qui nous colonise, mais qu'au contraire, elle invente à partir de mots étrangers.
Mais c'est vrai que son vocabulaire évolue aussi parallèlement à son existence de femme.
Quand elle, par exemple, lorsqu'elle dit « Moi qui ne connaissais rien à rien, moi qui n'étais jamais entré dans le café de Bendition par interdiction paterne, moi qui croyais encore que les enfants naissaient par le derrière, moi qui ne savais même pas ce qu'était embrasser, n'ayant jamais vu deux personnes le faire et pas de télévision pour m'instruire, moi qui savais encore moins comment se pratiquait l'acte, ma mère dit l'acte pour l'acte sexuel, et là elle dit ni le 69, ni les pipes, ni rien. Elle évolue bien quand même, on ne sait, dans le, avec le langage.
Mais elle attrapait tout ce qu'il ne fallait pas attraper.
Allons donc.
Tout ce qu'il ne fallait pas attraper, elle l'attrapait. Les injures françaises, les...
Oui, j'allais vous en parler. Dans votre art poétique, on parle... Enfin, il y a des gros mots partout, hein, je suis désolée de le dire. Hein, voilà,
parce que c'est là que mes origines espagnoles se manifestent. Les Espagnols ont un art de l'injure. Ils sont les maîtres de l'injure. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais il y a une grâce, un véritable art de proférer des blasphèmes et autres jurons chez les Espagnols, un peu, qui est plus développé qu'en France, me semble-t-il.
Et vous dites aussi que les Espagnols pensent que tout le monde est sourd. En fait, quand on est espagnol, on parle fort, on ne parle pas, on crie. Vous l'écrivez, en tout cas.
C'est un peu vrai. On est sévère qu'avec ce qu'on aime.
On est sévère avec ce qu'on aime. Lydie Salver, lauréate du prix Goncourt 2014 pour son roman « Pas pleurer » aux éditions du Seuil. Premier temps de pause musicale à bord de Wagon Livre. On se retrouve dans une poignée de minutes tout de suite. Michaël Miro, La vie simplement. Bonne soirée sur votre radio locale.
La vie c'est méchant. Imagine comme un jeu d'enfant, légère comme une marelle, plus belle qu'un cerf-volant, c'est que du vent. La vie c'est violent, sans prévenir la vie montre les dents. Souvent nos fleuves tranquilles se déchaînent en torrent. La vie c'est violent, chanter la vie est belle en plein tourment. Me fait pousser des ailes, juste le temps d'admirer l'essentiel, tout simplement. Les pieds dans le vide, crier je suis vivant. Eh oh, eh oh, je suis vivant. Eh oh, eh oh, 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 oh. La vie c'est dément. Sans préavis, la vie coupe le courant. Souvent les premiers à partir pensent avoir le temps. La vie tu mens. La vie c'est devant. Bonheur en prime, à bout portant. Reste à trouver les clés pour aller de l'avant. Évidemment, chanter la vie est belle en plein tourment. Me fait pousser des ailes, juste le temps d'admirer l'essentiel, tout simplement. Les pieds dans le vide, crier je suis vivant. Chanter la vie est belle en plein tourment. Me fait pousser des ailes, juste le temps d'admirer l'essentiel, tout simplement. Le cœur dans le vide, crier je suis vivant. La vie simplement ne donne rien qu'elle ne reprend. Eh oh, eh oh, je suis vivant. Eh oh, eh oh, oh, oh. Eh oh, eh oh, je suis vivant. Eh oh, eh oh, 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 oh. Les pieds dans le vide, vivant. Mon cœur dans tu l'entends, les pieds dans le vide, vivant.
Très bonne soirée. Si vous venez de nous rejoindre sur Radion 90.5 dans Lyon ou alors aux quatre coins du monde en direct via internet sur le www.radion.fr. Au cœur de l'actualité littéraire, puisque ce soir vous pouvez entendre l'écrivain qui a remporté le prix Goncourt le 5 novembre dernier pour son roman intitulé « Pas pleurer », roman qui raconte l'histoire émouvante de la mère de l'auteur, Montse, qui connut la parenthèse libertaire de l'été 36 lors de la guerre civile espagnole. C'était vendredi dernier, 14 novembre, à Avallon. Alors, reprise tout de suite de la discussion avec Lydie Salvert, avec une intervention d'Evelyne Levallois de la librairie avallonnaise L'Autre Monde.
Moi, ce qui m'a aussi intéressé dans ce roman, c'est le côté roman familial. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi vous ne les appelez pas papa et maman. Pourquoi cette distance, Montse? Je ne dirais pas l'autre prénom, je vous laisse découvrir.
C'est à la fois une ruse romanesque et c'était à la fois une façon de faire de ma mère un personnage de roman et non pas ma mère, simplement. En l'appelant Montse, en la désignant comme on désigne un autre personnage de roman, ça me mettait peut-être dans la distance nécessaire pour faire d'elle un personnage de roman, ce que je crois elle est devenue.
Mais pourquoi vous avez choisi le roman et pas le récit familial ?
Oh, mais moi, je ne sais pas ces nuances-là.
Entre non, flûte. Hein.
Non, mais vraiment, je vous assure, je ne sais pas. Parce qu'il y a une... Non, mais sérieusement, mais parce qu'il y a une part romanesque, quand même, dans cette histoire qui est grande. Il y a une part biographique très grande, mais il y a aussi une part romanesque que je peux dévoiler si on veut, mais c'est... je ne sais pas si c'est intéressant pour les gens.
Je ne sais pas, à eux de nous dire.
En tout cas, par rapport à la mère, vous dites que, je vous cite... Vous gardez un nom que vous êtes heureuse de faire vivre, oui, et de détourner pour un temps du néant auquel il était promis.
Oui, absolument.
Donc c'est un livre contre l'oubli à la fois de ce qui s'est passé en Espagne, absolument, et contre l'oubli de sa mère qui elle-même a des problèmes, absolument, de mémoire.
Absolument. Un jour j'ai lu dans le blog de Éric Chevillard, je ne sais pas si vous le lisez, en tout cas moi j'éprouve beaucoup de plaisir à le lire, il disait que l'au-delà, pour les gens qui n'étaient pas croyants, c'était simplement l'existence des morts qu'ils avaient aimés dans l'esprit des vivants. Et ce livre, c'est une façon d'offrir un au-delà, moi qui ne suis pas croyante, à ma mère. Et ce nom, Montserrat Monclús Arjona, qui aurait disparu si ce livre n'avait pas existé, enfin, sauf dans mon esprit, il me semble qu'il va durer un tout petit peu plus longtemps, peut-être.
Et alors avec le Goncourt
Oui, là vous lui avez donné une auréole.
Mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour le savoir.
C'est étrange aussi, vous parliez tout à l'heure de la honte, de cette langue imparfaite, de ses origines aussi peut-être. Mmh. Et aujourd'hui vous mettez ça au cœur du roman. Comment est-ce que vous réussissez ce tour de force?
Peut-être précisément que c'est lié. Peut-être que c'est ces humiliations d'enfance. Si douloureuse quand on est petit, on a vraiment envie plus tard de les renverser en prestige, vraiment. Je pense qu'il n'y aurait pas eu le fragnol s'il n'y avait pas eu ces mots qu'on dit mal à l'école et qui fait qu'on est repris, qui nous couvrent de honte. Moi j'en ai un certain stock comme ça parce que par exemple je disais enfant, parce que on parlait le fragnol à la maison, qu'est-ce que tu as mangé à midi ? De la moulette. De la moulette pour dire de l'omelette, mais après, quand on vous fait la remarque, mais vous êtes mais mortifié de honte. Mortifié de honte. Et ça, ça laisse une trace vivante longtemps, et on écrit avec ces traces-là, et on écrit aussi pour les renverser, et pour couper justement... l'amertume, au ressentiment, on en fait des valeurs. Et en plus, je pense très sérieusement que c'est une question politique que je pose à la langue. Est-ce que la langue doit-elle rester une chose pure, fermée à toutes les influences extérieures, closes, etc., immuables, ou bien pour rester vivante, doit-elle s'ouvrir aux influences de l'étranger, comme elle l'a d'ailleurs toujours fait avec le portugais, le, le russe, l'espagnol, etc. Donc il y avait en plus une raison politique, si j'en avais besoin, pour me soutenir dans ce projet. Mais c'était pas premier, hein, ça je le dis pour justifier, mais ce qui était premier, c'était de traduire cette langue maternelle.
Et d'ailleurs, on ne dit pas la langue paternelle, on dit bien la langue maternelle. On parle la langue de sa mère,
oui.
Et pas la langue de son père.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Alors peut-être, Evelyne, pourrait-on maintenant donc aborder la période historique qui sert de décor à l'adolescence, puisque Monse a 15 ans, hein, elle
oui.
se retrouve avec un enfant, elle a 16 ans, et
oui.
on racontera pas trop le roman, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est le décor, le cadre historique authentique, dont certaines personnes ont peut-être sont encore les témoins. Alors bien sûr, il y a cette figure de Bernanos, donc cet écrivain français, catholique, qui se trouve dès 1934,
il arrive 35. En 1934, je crois.
Donc il est à Palma de Majorque. Et comment se fait-il qu'il est là-bas
Alors, donc Bernanos, pour ceux qui l'ignorent, écrivain monarchiste, catholique fervent, qui a été militant d'Action française, qui a défilé avec les camelots du roi, c'est vous dire si politiquement il était éloigné de mon univers, qui est un esprit très, très, très indépendant, qui déteste le milieu littéraire qu'il trouve trop bourgeois. C'est pas un écrivain de cour, c'est pas un écrivain qui minaude. Et il va fuir la France, il la fuira plusieurs fois d'ailleurs. Il la fuira en 1938 parce qu'il est écœuré par ce qui se passe en France. Et il s'installe à Majorque. Au début, il est plutôt du côté des phalangistes et des franquistes. Son fils, d'ailleurs, Yves, s'engage dans la phalange.
Et contribue à la Terreur bleue.
Voilà. Et puis, petit à petit, Bernanos voit avec dégoût, avec révolte, avec écœurement, la terreur qu'exercent les nationaux sur les mauvais pauvres, c'est-à-dire les pauvres républicains. Ceux qui ont le tort de vouloir encore croire en la République. Et il va écrire pour une revue dominicaine qui s'appelle 7 en France, qui est publiée en France, et il regroupera tous les articles pour écrire Les grands cimetières sous la lune qui sera publié en 1938 en France.
Par extrait dans le Figaro.
Non, qui sera un livre, oui, dont des extraits seront publiés dans Figaro, vous avez raison.
Et qui est un pamphlet ravageur, notamment
pamphlet
contre l'Église espagnole.
Contre les nationaux et contre le comportement de l'Église catholique espagnole qui donne sa bénédiction à ce régime de terreur. Et comme il est. Et c'est parce qu'il est chrétien, c'est parce que pour lui le message christique est important, qu'il est aussi révolté contre l'Église catholique, dont il a l'impression qu'elle déshonore le message christique et qu'elle le souille et qu'elle le dévoie. Donc je me suis perdue là, non ?
Non, pas du tout. Evelyne a été, elle, particulièrement sensible à l'esprit libertaire qui a soufflé un certain temps sur l'Espagne, esprit auquel les communistes ont mis un violent coup d'arrêt. Et finalement, dans le roman, vous parlez, je vous cite encore, très facile les citations, de mésintelligence des grands courants politiques de l'Espagne. Donc finalement, c'est l'absence d'unité qui a conduit l'Espagne au franquisme, pas complètement.
Non. Il y a eu un élément majeur, c'est que l'Europe n'a pas apporté son aide à la République espagnole. Ça a compté évidemment pour 90%.
Il y avait la peur de la contamination révolutionnaire.
Il y avait aussi cette peur, sans doute. Il y avait la prudence qui a conduit l'Europe à signer les accords de Munich quelques temps après, hein, alors que la Russie de Staline, elle, s'est portée, apportée soutien aux communistes espagnols.
Et puis il faut rappeler, nous Français, que le Front populaire de Léon Blum avait souhaité la non-intervention en Espagne, ce qui a brisé le cœur de beaucoup de socialistes français à l'époque.
Absolument, absolument. Contraint par un certain nombre de ligues, contraint par la classe bourgeoise en général, hein, qui qui était plus hostile au discours du Front populaire qu'à Hitler et Mussolini à l'époque. En tout cas, c'est ce que Bernanos dit dans son livre.
D'ailleurs, vous citez Nietzsche, me semble-t-il, qui dit qu'il y a deux dangers dans une société. Il y a le nationalisme, et j'ai oublié le second.
Ah, c'est Schopenhauer.
Schopenhauer, oui.
Oui, il dit... C'est une maladie. La syphilis, je crois. C'est la syphilis et le nationalisme.
Enfin, en tout cas...
Qu'il considère comme deux maladies dont l'une est résolue, définitivement incurable, pense-t-il.
Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Simplement, il y a une grande méfiance, peut-être que vous reprenez à votre compte, mais une grande méfiance aussi de la part d'un certain nombre d'intellectuels autour de l'adjectif « national ».
Oui.
Qui est un adjectif qui fait peur.
Oui, 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 je rappelle ça au passage, oui, que pour Nietzsche, pour Schopenhauer, pour Bernanos, pour bien d'autres, un certain usage du mot nation est effrayant. Pas l'usage qu'en font par exemple De Gaulle et Malraux. Malraux disait de la nation qu'elle était la communauté des rêves. C'est une belle notion de la nation. La nation à laquelle font référence Nietzsche, Schopenhauer et Bernanos, c'est la nation qui se veut pure, qui refuse tous les éléments hétérogènes, qui est belliqueuse, qui a peur des étrangers, qui a peur des non-nationaux, etc. Hein, c'est pas la nation de Malraux ni de Gaulle qui est à mettre en cause dans leur bouche.
Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que vous montrez dans le roman que les exactions, les horreurs sont dans les deux camps quand
oui.
même. Hein. Les prêtres éventrés, assassinés, dont on met un crucifix dans le
oui,
fondement,
parce que...
les horreurs sont vraiment dans tous
si
les camps.
Si vous voulez, je me disais tout le temps que le danger à éviter était évidemment le manichéisme, hein, c'est-à-dire désigner les républicains, dont ma famille était comme les parfaits, les purs, les bons, et les autres comme les mauvais, les méchants, etc. Il y avait dans le camp des nationaux de pauvres gens, hein, il y a eu chez les républicains des crimes contre les religieuses et contre les prêtres qui n'auraient pas dû avoir lieu. Hein, ça, c'est une lettre magnifique de Simone Veil à Bernanos. Simone Veil, qui est une philosophe d'origine juive, qui se
convertit plus tard,
au catholicisme, qui va prendre fait et cause pour les républicains espagnols et qui va aller se battre, elle va se battre avec un fusil auprès des miliciens libertaires d'Aragon. Et un soir, elle entend deux de ces miliciens, qui étaient ses frères, qu'elle aimait profondément, se vanter d'avoir tué deux prêtres. C'est sa limite, c'est la limite de ce qu'elle peut supporter. Et quand Bernanos sort les grands cimetières sous la lune, elle lui écrit une lettre pour lui dire cette limite-là, qui était la même limite que Bernanos au fond, mais dans l'autre camp. Et Bernanos va garder cette lettre toute sa vie dans son portefeuille.
C'est dans le roman.
Donc c'est cette lettre de Simone Veil aussi qui m'a aidé à mettre de la subtilité et de la complexité dans ces prises de position, pour ne pas faire tout blanc, tout noir.
Lydie Salvert, ce soir à bord de l'émission littéraire de Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On retrouve la lauréate du Goncourt 2014 après une petite parenthèse musicale. Voici Patrick Bruel, Lequel de nous. Excellente soirée sur votre radio locale. On se retrouve juste après.
Lequel de toi, lequel de moi aura eu tort? Lequel de nous dira j'y crois encore? Lequel saura lire les silences dans d'autres yeux? Lequel ira tenter sa chance à d'autres jeux? Lequel de moi, lequel de toi dira d'abord que ça vaut peu, que ça vaut plus, qu'on s'aime encore? Lequel passera du côté noir, du côté froid, côté où l'un de nous deux ne sera pas? Tu pourras dire n'importe quoi, puisque l'amour c'est fou. On ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Tu pourras dire n'importe quoi, puisque l'amour c'est tout. ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout. Lequel de toi, lequel de moi aura l'envie de tout laisser, de tout quitter, comme si il y avait toujours mieux ailleurs, un autre monde meilleur, une autre vie où tu ne seras pas aussi. Lequel de toi, lequel de moi aura l'audace de voir en l'autre tout le contraire d'une menace? Accepter même les erreurs, revenir en arrière, ces différences qui nous font peur jusqu'à tout foutre en l'air. Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour c'est fou. On ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour c'est tout. Ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout. Lequel de toi, lequel de moi dira je t'aime sans rien en échange, rien qui dérange comme un poème. Un mot d'amour dans les orages de toute une vie à deux. Un mot qui change les sauvages en amoureux. Tu pourras dire ce que tu veux sur tout ce qui nous éloigne. Tu sais très bien qu'à ce jeu, jamais personne ne gagne. Cette histoire, aucun de nous deux ne pourra l'effacer. Ce qu'il y a au fond de nos yeux ne s'oubliera jamais. Tu pourras dire n'importe quoi, des cris ou des menaces. Il n'y aura que toi et moi pour sortir de l'impasse et retrouver dans un sourire ou une main tendue tous les mots qu'on aurait pu dire si on l'avait voulu. Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour c'est fou. On ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Et même écrire n'importe quoi puisque l'amour c'est tout. Ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout. Tu pourras dire. Ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout.
Soirée Goncourt sur Radion dans Wagon Livre. En effet, Lydie Salvaire était à Avallon le 14 novembre dernier à l'invitation de la librairie L'Autre Monde. C'est pour Pas pleurer qu'elle a reçu le prix Goncourt. La discussion repart avec une intervention d'Evelyne Levallois concernant la redécouverte de Georges Bernanos et de son violent pamphlet antifranquiste « Les grands cimetières sous la lune » qui eut un grand retentissement en France lors de sa parution en 1938.
Moi, j'aimerais savoir comment, aujourd'hui, vous en arrivez à lire Bernanos. C'est un auteur un peu tombé en désuétude, difficile à lire, notamment Les grands cimetières. Hein. C'est un pamphlet politique. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup les références. Comment vous lui redonnez une seconde vie, hein. D'ailleurs, Le Seuil vient de le rééditer. Mais comment est-ce qu'on en arrive, vous, Sylvie, Lydie?
Mais parce que je crois que j'avais à peu près tout lu sur la guerre d'Espagne. Évidemment, Malraux, Hemingway... Orwell, plusieurs livres d'histoire, etc. Et probablement par préjugé, je n'avais pas lu Bernanos. Probablement par préjugé. Je l'ai lu donc il y a 2 ans, il n'est jamais trop tard. Et j'ai trouvé cet écrivain magnifique. Magnifique de courage, magnifique de liberté d'esprit. Je trouve qu'il y a une actualité dans ses écrits politiques absolument extraordinaire. C'était quelqu'un qui dénonçait la spéculation comme rares le font aujourd'hui. Alors il est critiquable en ce sens qu'il était antisémite et qu'il l'est resté jusqu'à la fin. Et en ça, évidemment, il n'est pas défendable. Bernanos assimilait le juif et le banquier. Et comme il était violemment anticapitaliste, évidemment... de façon folle, et comme une partie de la société bourgeoise l'était, hein, antisémite, dans les années 30, il a partagé cet antisémitisme. C'est vraiment... c'est vraiment...
Mais vous l'avez découvert par hasard chez votre libraire, ou vous l'avez volontairement...
Non, je l'ai
voilà, je l'ai vous êtes allé chercher.
Volontairement, oui, d'accord. Parce que je vis avec quelqu'un qui me disait depuis des années, mais comment se fait-il que tu n'aies pas lu Les grands cimetières sous la lune? Et voilà.
En revanche, il y a un petit clin d'œil, c'est que l'enfant de Mansé s'appelle Lunita, petite lune.
Peut-être. Je n'y avais pas pensé une seconde.
Je sais pas, moi,
Mais c'est toujours les lecteurs qui vous apprennent des choses sur ce que vous avez écrit.
Hein. C'est amusant parce que vous parlez, il y a ces deux voix qui s'entremêlent dans ce roman récit. Il y a le mot lune dans le titre du pamphlet de Bernanos et l'enfant de Montse s'appelle Petite Lune, Lunita.
Oui, j'ai pas fait le lien pour la bonne raison que l'arrivée de Lunita est un pur bonheur dans la famille, alors que la lune des grands cimetières est la lune terrible des grands cimetières où les franquistes viennent jeter leurs assassinés.
Et puis face à la lune, il y a surtout cet épisode solaire que connaît Montse à 15 ans à travers effectivement cette liberté quand elle quitte sa campagne et que quelque part elle peut jeter son éducation.
Oui, c'est ça, se fumer dans
la rue, s'installer à une terrasse et
non,
se
parce que là, on parle beaucoup de Bernanos. Je ne voudrais pas que vous croyiez que le livre est terrible et désespéré comme l'est le texte de Bernanos, parce que précisément, le désir que me donne Bernanos et son texte si terrible, si noir, si nocturne, c'est justement, il me donne envie de réactiver d'autres forces, des forces de vie, des forces d'émancipation, des forces de liberté, comme elles s'exprimèrent en 1936 et pendant quelques mois, je crois qu'il y a quelques gens qui peuvent encore en témoigner. Et les quelques documents que j'ai vus sur la Barcelone de 1936 aux mains des libertaires, c'est exceptionnel. Il y a une espèce de ferveur, de joie, d'amitié. Tout le monde se tutoie, les gens s'embrassent. Quelque chose qui a dû rester vraiment inoubliable dans les esprits qui l'ont vécu.
C'est d'ailleurs toute la force du roman, à mon avis en tout cas, c'est d'avoir cette double trajectoire très solaire pour Montse, malgré les difficultés, et la trajectoire de Bernanos qui, elle, est vraiment dans la noirceur. Et donc, ces deux récits de la guerre d'Espagne, finalement.
Oui, voilà, deux récits, deux visions de même événement, l'un heureux, émerveillé, solaire, celui de Montse, l'autre tragique et absolument désespérant.
Je voudrais revenir quand même sur le grand amour, parce qu'en plus, elle découvre la liberté, Montse découvre la liberté en quittant sa campagne, en allant à la grande ville et bénéficiant de cet élan libertaire qui souffle sur l'Espagne, malheureusement de manière trop brève. Elle a un amoureux, un Français, qui se prénomme André, et que par la suite, ça sera André, dans son esprit, c'était André Malraux.
Oui, bon, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, donc Montse va vivre de bonheur. Montse, qui n'a rien vécu de sa vie, elle a été élevée à l'école catholique.
À coup de ceinturon, un peu, aussi. Pas à l'école catholique,
non, mais à la maison, de façon un peu brusque, oui. Elle ne sait rien de la politique, elle ne sait rien du sexe, elle ne sait rien de rien, elle ne sait rien du monde. Et tout d'un coup, elle découvre qu'elle peut avoir du plaisir, qu'elle a le droit de parler, et qu'elle peut, échanger un baiser de 1h30 au cinéma, et que c'est délicieux, etc.
Et de surcroît avec un Français, quand même.
Avec un Français.
Qui nous fait plaisir.
Donc elle vit à la fois un bonheur personnel et un bonheur collectif, et je dis depuis quelque temps, depuis que le Goncourt nous est tombé dessus, que les bonheurs les plus intenses, ce sont les bonheurs collectifs, les bonheurs qu'on vit à plusieurs, vraiment. Et elle a cette chance, elle, de vivre à la fois un amour et la révolution, et ça, c'était quelque chose de sûrement d'exceptionnel. Donc elle rencontre un jeune homme français venu s'engager dans les brigades internationales, comme il y en a eu quelques-uns. Il lui dit qu'il s'appelle André, qu'il est jeune écrivain, et ils vont avoir un rapport tellement bref qu'elle ne va pas lui demander son nom de famille, et donc il va rester comme celui qui s'appelle André Malraux, dans la famille, dans la légende familiale.
Puisqu'on parle des écrivains, pourquoi Montse dit-elle de Pablo Neruda que c'est une enflure ?
Est-ce que c'est Montse d'ailleurs ?
C'est son frère. Elle dit que son frère lui dit que.
D'accord.
Mais Pablo Neruda, parce que c'est, moi je l'ai découvert dans des livres d'histoire qui était communiste, qui a eu du pouvoir et qui a utilisé souvent ce pouvoir pour mettre au pas certains libertaires, Et qui a fait des choses, me semble-t-il, pas très catholiques en 36 et en 37, pour ceux qui n'étaient pas tout à fait de son bord. Mais bon, par ailleurs, il est un grand poète, donc voilà.
Oui, mais autre grand poète que vous descendez en flèche dans le roman, c'est Paul Claudel.
Oui.
Alors là aussi, moi, j'ai appris des choses terribles sur Paul Claudel.
Alors, Paul Claudel, c'est Bernanos qui commence. Bernanos est terrible avec Paul Claudel. Donc Paul Claudel qui écrit d'abord une ode à Franco, ensuite une ode à Pétain, et ensuite, quand De Gaulle arrive, une ode à De Gaulle. Ça fait beaucoup.
C'est un homme d'engagement.
C'est un homme d'engagement. Bon, j'ai du mal, moi, avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça, quel que soit l'écrivain. Je l'avoue.
On retrouve Lydie Salvert dans Wagon Livre juste après un intermède musical. Bonne soirée sur Radion. Tout de suite, Judith, le bon vent.
Le bon vent viendra chasser les mauvais tours. Les printemps viendront balayer les mauvais jours. Je sais bien qu'il y a pire et qu'il y a mieux que moi. Mais au-delà de nos soupirs, eh bien au-delà. C'est bien peu de le dire, oui mais moi j'y crois. Je demande à ton sourire de se tenir près, car le bon vent viendra chasser les mauvais tours. Les printemps viendront balayer les mauvais jours. Le bon vent viendra chasser les mauvais tours. Les printemps viendront balayer les mauvais jours. Tous ces gens que l'on devine qu'on imagine plus heureux que nous. Crois-tu qu'il se dessine un autre idéal sous le poids de ta routine? Ce serait pas si mal, mais le bon vent viendra chasser.
C'est le titre du roman de Lydie Salvert qui lui a valu cette année le prix Goncourt, un livre de la mémoire heureuse en tout cas. Lydie Salvert qui était l'invitée de la librairie L'Autre Monde à Avallon le 14 novembre dernier. Suite d'ailleurs de la discussion que nous vous proposons ce soir sur Radion avec une remarque d'Evelyne Levallois.
Comment est-ce qu'on en arrive à écrire ce livre-là quand on est fille d'émigrés espagnols, dans une France aujourd'hui un peu bigarrée, on va le dire comme ça, et avec, oui, si ça a été écrit il y a 2 ans, avec des dossiers nationaux, on va dire, un peu lourds, c'est gratuit, vous avez des messages à faire passer, Lydie, vous avez...
Mais, secrètement, j'avais envie que certaines choses résonnent aux oreilles contemporaines. Je ne voulais pas insister là-dessus, mais voilà, je me disais qu'une méditation sur le mot de national, par exemple, et sur éventuellement des parties qui se décorent de ce mot pouvait être utile. Je me disais qu'une méditation sur le fanatisme religieux, aujourd'hui, pouvait peut-être aussi être d'une certaine utilité. Qu'une méditation sur le non-engagement de l'Europe dans l'histoire, tout ça, c'était peut-être des choses qui pouvaient résonner aujourd'hui.
Merci.
Juste encore une citation, je cite la Bernanos quand même, pour montrer aussi que le roman nous donne des échos à nous Français sur notre propre histoire, lorsque Bernanos écrit « Je ne me lasserai pas de répéter que nous pourrons entreprendre un jour ou l'autre l'épuration des Français sur le modèle de l'épuration espagnole, bénie par l'épiscopat ». Ça a encore des souvenirs d'une histoire de l'État français qui n'est pas si vieux que ça.
Bernanos, dès 36-37, voit dans l'Espagne, dans ce qui se passe en Espagne, la préfiguration de ce qui va arriver en Europe. Et avec cette Europe qui n'intervient pas, qui laisse faire, avec les haines autorisées, avec les fanatismes religieux, etc. Et les crimes commis avec la bénédiction de l'Église, il y voit une sorte d'annonce de ce qui va arriver. Il le voit avant tout le monde. Mais pour parler du présent, Albert Camus, qui a été quelqu'un qui a beaucoup soutenu les Espagnols hein, en France, et notamment le mouvement libertaire qui a été très très présent, disait que la guerre civile avait été son institutrice. C'est-à-dire que la guerre civile espagnole lui avait appris à lire son propre présent. Et j'aime beaucoup cette façon de le dire. Et j'espère encore que la guerre civile soit encore aujourd'hui notre institutrice.
Pourquoi est-ce que vous ne poussez pas, vous l'évoquez mais à peine, hein, l'épisode qu'on appelle la retirada, oui. C'est-à-dire hein, ces Espagnols qui vont fuir l'Espagne pour la France, et la France qui ne va pas vraiment bien les accueillir. Donc pourquoi est-ce que vous éludez ça ?
Parce que le livre s'appelait Pas pleurer, mais vraiment, et parce que je me disais que si je me lançais vraiment dans l'écriture de ces années d'exil si terribles, Pas pleurer, j'y serais pas arrivée.
Vous parlez juste des pérégrinations des années 39-40 au cours desquelles ma mère et l'UNITA voguèrent de camps de concentration en camps d'internement. On a beaucoup parlé de Bernanos, il n'a d'ailleurs jamais eu le Goncourt, lui. Hein.
Et non, ah non, oui. Non, ouais, non. Mais je crois qu'il a eu le prix de l'Académie française. Ah.
Je confirme ce que vient de dire Lydie Salvert, puisque Georges Bernanos a effectivement bien été couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française pour le journal d'un curé de campagne publié en 1936. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre rendez-vous littéraire avec la lauréate du prix Goncourt 2014, Lydie Salvert, que nous avons eu le bonheur d'enregistrer vendredi dernier, alors qu'elle était invitée par la librairie L'Autre Monde à Avallon. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion. Tout de suite, place à la chanson. Voici Navi, on se sent seul.
Je n'attends rien et je flâne sans raison. J'écoute le bruit des trains, je laisse passer les saisons. Je me noie dans la foule, dans ces rues je me perds. Quelques rêves qui s'écroulent dans la ville des lumières. On se sent seul, croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. La lune nous éclaire, j'aime quand c'est toi qui conduis. quand tu fredonnes ces airs pour faire danser nos insomnies. On ne regarde plus derrière, on a la vie devant nous. On s'est promis de le faire, de ne pas finir à genoux. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul, on croise les doigts en chemin. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient. On se sent seul. Puisqu'on est jeune, que l'avenir nous appartient.
À l'instant, sur votre radio locale, c'était Navi. On se sent seul. Ben, on n'est pas seul du tout ce soir, puisque, effectivement, on vous propose dans sa quasi-intégralité l'intervention du prix Goncourt 2014, Lydie Salvert, qui était l'invitée de la librairie L'Autre Monde, vendredi dernier, 14 novembre, à Avallon. Alors, justement, lorsqu'on l'invite à prononcer un petit mot de conclusion, eh bien, voici ce que Lydie Salvert souhaite ajouter.
Peut-être dire que le mot d'ordre des libertaires, c'était « à l'impossible, je suis tenue ». À l'impossible, je suis tenue pour qu'un peu de possible advienne. À ce qu'on nous fait croire comme impossible, hein, pour qu'un peu de possible advienne. Juste ça, juste ça. Je trouve que c'est un beau programme.
Merci beaucoup, Lydie. Très bien. Merci beaucoup.
L'émission touche pratiquement à sa fin et je ne serais pas complet si je ne rappelais pas tout de même le titre du roman de Lydie Salvert qui a obtenu le prix Goncourt cette année. Il s'agit donc de « Pas pleurer », un roman disponible aux éditions du Seuil. Je tiens à remercier Evelyne Levallois et Carole Amicel de la librairie L'Autre Monde pour leur confiance et les remercier également de nous avoir associés à ce très bel événement qu'elles ont offert en accueillant à Avallon Lydie Salvert, prix Goncourt 2014. Prochain rendez-vous de Wagon Livre, mercredi 26 novembre, toujours à 21h sur Radion 90.5 dans Lyon ou via internet sur le www.radion.fr. Nous recevrons mercredi prochain devant notre micro Louis Rougnon-Glaçon qui milite depuis plus de 30 ans pour une simplification de l'orthographe française. Argument à l'appui, cet agrégé de sciences physiques nous expliquera pour quelles raisons il est attaché à une vraie réforme de l'orthographe, mais il expliquera aussi ce qu'il souhaite, à savoir la création d'un alphabet phonétique français. C'est, en tout cas, au programme de Wagon Livre, mercredi prochain, 26 novembre, à 21h, toujours sur Radion. Quant à l'émission de ce soir, elle sera disponible à l'écoute et en téléchargement dès demain matin 10h sur le site www.yannickpetit.fr. Merci de votre fidélité, excellente fin de soirée, rendez-vous mercredi prochain, au revoir. Thank you.